Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Isabelle Dos Santos, la fille de l'ex-président angolais, a été accusée de fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent et trafic d'influence durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol. Le procureur général angolais, Elder Pitagro, est arrivé ce jeudi à Lisbonne pour rencontrer son homologue portugais au lendemain de la mort vraisemblablement par suicide d'un banquier portugais qui gérait les comptes de la femme d'affaires. Nuno Ribeiro da Xuna a également visé par la justice angolaise, travaillé pour la banque Eurobic, dont la milliardaire est l'actionnaire principal et son nom apparaît dans les fameux documents des Luandalix, l'enquête du consortium international des journalistes d'investigation publiée dimanche. Alors selon vous, à partir de cette affaire et bien d'autres, pourquoi les familles de chefs d'État sont-elles aussi puissantes? Pour en parler, vous pouvez nous joindre. Vous faites le plus 1 202 205 26 33. Je répète, plus 1 202 205 26 33. Vous nous appelez, on peut vous rappeler aussitôt. Donc, on va parler, on va discuter de ce sujet avec vous. On a déjà un auditeur en ligne. C'est Martin. Est-ce que j'ai bien entendu le nom? Est-ce que c'est Martin? Martin Bidji.
Bonjour. Oui, bonjour, madame.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Non, nous sommes bien chez vous, je suis de la République démocratique du Congo.
Ah, voilà, alors c'est Martin Bidji Boua. Je vois votre commentaire maintenant en RDC. Alors, vous pensez que le dossier Isabelle Dos Santos n'est qu'une chasse aux sorcières? On vous écoute, Martin.
Oui, en tout cas, le problème de la fille de l'ex-empereur de la République angolaise, Isabelle, en fait, c'est une sorte de chasse aux sorcières pour le gouvernement en place, d'autant plus que cette pratique a engagé beaucoup d'États africains. Lorsque un président joue de son mandat à la fin de celle-ci, en fait, il y a toujours des poursuites de part et d'autre. Cette pratique ne parvient pas au nouveau. Et pouvoir, décoller. Donc si, comme remède, les États africains doivent se mettre ensemble, s'entendre, les serpents et comme l'entrant, mettre les idées ensemble pour pouvoir relancer l'économie, pourquoi pas développer le pays dans l'ensemble, dans tout le secteur.
Merci beaucoup, Martin. Alors, on rappelle que Isabelle Dos Santos a dénoncé un tissu de mensonges monté pour des raisons politiques, selon elle. La femme d'affaires a dénoncé une chasse aux sorcières, dont on vient de parler, destinée, selon elle, à les discréditer, elle et son père. Et elle a écrit notamment sur Twitter « Ma fortune est née de mon caractère, mon intelligence, éducation, capacité de travail et persévérance ». Et son avocat a également réfuté les accusations du consortium et dénoncé des attaques parfaitement coordonnée par le président João Lourenço, selon ses termes. On a le commentaire sur le Facebook de VO Afrique, notamment de Frédéric qui pense que Dos Santos doit regretter en ce moment d'avoir laissé les rênes du pouvoir. Quand il voit les déboires de ses enfants avec la justice, écrit-il, c'est ce qui effraie d'autres dirigeants d'Afrique, dit-il, d'Afrique centrale en particulier, pour ne pas lâcher le pouvoir et se retrouver devant la justice. Donc ça, c'est le commentaire de Frédéric. Quant à Salomon, il pense que les Africains sont sacrifiés par des familles présidentielles et leurs collaborateurs en s'enrichissant illicitement, oubliant les promesses flatteuses pendant les campagnes électorales, dit-il. Alors il pense que sur le terrain, rien n'est fait et il dit au moins les présidents en fonction doivent arrêter les voleurs de l'État au lieu de dire qu'on ne vienne pas fouiner dans le passé. Et il dit, il dit merci au président angolais, courage au reste. Salomon, qui est donc à Kinshasa, qu'on essaye de joindre. On a Norbert en ligne, Norbert Mukendi qui est à Kinshasa. Comment ça va, Norbert?
Allô, bonsoir, madame.
Bonsoir, comment allez-vous?
Je vais bien, vous?
Ça va très bien. Alors, vous, à la question qui est posée, pourquoi les familles de chefs d'État sont-elles aussi puissantes? Vous répondez parce qu'ils utilisent le trafic d'influence et une opacité de gestion de la chose publique par leur père. Norbert, on vous écoute.
Oui, surtout en Afrique, les enfants des chefs d'État sont beaucoup puissants. D'ailleurs, les chefs d'État gèrent le pays comme un bien, un patrimoine familial. Et la gestion est basée sur une opacité, la gestion basée sur le détournement des fonds publics, la gestion basée sur le trafic d'influence. Sans un contrôle, et puis ces enfants-là utilisent des trafics. Les gens ont permis, et pourquoi ils différent, ils sont beaucoup puissants. Donc c'est ce qui fait que ces enfants là sont puissants dans économiquement et politiquement. Donc c'est ce que nous trouvons, nous constatons dans la politique africaine. Donc nos dirigeants gèrent mal les pays. Ils gèrent les pays comme les biens familiales, comme les patrimoines familiales. Et c'est ce qui pose problème à ce niveau-là.
Grand merci Norbert pour votre commentaire. On essaie de joindre Hassan Omar à Djibouti. On a le commentaire de Donatien Kra qui dit « Une fois au pouvoir, la République devient le royaume ». Quant à Ruben, qui est également à Kinshasa, comme Norbert que nous venons tout juste d'avoir, eh bien Ruben Momengue, il dit « C'est juste que le pouvoir réside entre leurs mains. En plus, ce sont les juridictions de l'ordre judiciaire qui ne répondent pas favorablement aux litiges face à la famille présidentielle. » Et il poursuit en disant « Ils ne craignent pas la force du droit, mais la force du pouvoir. » Ça, c'est Ruben qu'on essaie également de joindre à Kinshasa. Et alors, il faut savoir que ces enquêtes par rapport à Isabelle dos Santos, entre autres, ont commencé lorsque son successeur à la tête de la Sonangol, Carlos Saturnino, a dénoncé des transferts de fonds illicites et d'autres procédures suspectes. Et alors, bon, on sait que Isabelle dos Santos a également dirigé d'autres compagnies publiques dans le secteur notamment de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment en Occident. Alors après sa mise en cause, Eurobic, la fameuse banque, a annoncé sa décision de mettre fin à toute relation commerciale avec elle. Et la banque a même indiqué que la femme d'affaires allait vendre ses parts, donc au sein même de la banque, et elle aurait transféré donc des fonds d'origine douteuse au Portugal via cette banque. Bon, ses avoirs et ceux de son époux, Syndicat d'Okolo, ont été gelés en Angola. On prend Augustin Gauthier en ligne, qui est en République démocratique du Congo. Augustin, comment allez-vous?
Bon, nous allons bien, je vais voir.
Formidable, on vous écoute.
Oui, c'est monsieur Augustin Samba, depuis le musulman au Qatar oriental. Donc, par rapport à l'enrichissement illicite des familles présidentielles, en tout cas, c'est un problème qui est en train de gangréner la situation politique en Afrique. Donc, vous pensez que quand un président entre au pouvoir avec 150 millions de poches avec lui, donc quand est-ce que ces poches-là seront remplies? C'est pourquoi ils sont en train de mettre leurs filles à des postes clés. Car quand vous voyez seulement le président Eduardo dos Santos, donc le Perengo, donc toute la société pétrolière était dirigée par ses enfants. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter. Donc, ce sont les familles présidentielles en Afrique qui sont très, très riches. Donc, je suis en train d'encourager la justice angolaise de mettre fin, de mettre en expertise leur justice, afin que, même si l'autre là, la caissière de la fille de Santos s'est suicidée, il faut que la justice puisse la poursuivre et que les capitaux que la fille de Santos a volés puissent être retournés. Donc, en Afrique, quand un président arrive, la première des choses, il ne voit même pas le peuple qui l'a élu. Bon, le président est en train de mettre d'abord ses enfants en premier plan avant que les gens ne puissent se retrouver. Donc, Il faut que la justice puisse s'en occuper.
Un grand merci, Augustin. Avant de prendre Jonathan, on va citer Boureima Oubda, qui pense que c'est courant. Alors il dit, dès qu'ils accèdent au pouvoir, le pays est dirigé en même temps par leur famille, pense-t-il. Ce phénomène est un manque de démocratie, dit-il, dans un pays où le phénomène persiste. On observe une forte persistance de la corruption. Boureima Oubda, qui est au Burkina Faso, que l'on essaie de joindre. On essaie également de joindre Jacques Masséla, qui est en au Congo, Brazzaville. Alors il dit, le peuple angolais est l'un des plus pauvres de la planète. Donc c'est un rappel de Jacques Masséla. Quant à Émile Kankondé, qui est au Kasaï central en République démocratique du Congo, que nous essayons de joindre également. Donc Émile, il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, certaines familles, alors je le cite, hein, il dit, certaines familles présidentielles s'enrichissent illicitement, surtout si le chef d'État n'est pas contrôlé dans la gestion du patrimoine étatique. Mais je pense que le cas de l'Angola, dit-il, devrait faire référence à la chasse aux sorcières, car c'est surtout la famille de l'ex-président Eduardo dos Santos qui est poursuivie. La question que je me pose, dit-il, à part cette famille, il n'y avait pas d'autres personnalités qui étaient incriminées. Alors si justement, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a en fait 5 personnes qui sont donc, entre autres, c'est un début d'enquête, on va dire, entre autres dans cette affaire. On prend Jonathan Chiswaka, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comment allez-vous, Jonathan ?
Oui, je vais bien. Et vous ?
Ça va très bien. Alors, vous dites que la lutte contre le détournement des biens de l'État doit être primordiale pour le développement des pays africains. Je vous ai cité, Jonathan. À vous la parole maintenant.
Oui, comme je l'ai dit en commentaire, la lutte contre le détournement des biens de l'État doit être primordial pour les pays d'Afrique qui sont en voie de développement, parce que les populations dans nos pays sont très pauvres, alors que ceux-là qui nous dirigent ont des familles très riches. Et lutter contre cet enrichissement illicite, là, faire en sorte que les caisses de l'État puissent être remplies et trouver, faire en sorte aussi que le gouvernement puisse avoir assez de moyens pour parvenir aux besoins du peuple. Vraiment, si cela est le cas, je crois que l'Afrique ira de l'avant. Et cela doit être pour tous les pays de l'Afrique. Tous les gouverneurs, ceux qui gouvernent ne doivent pas s'enrichir sur le dos des populations.
Merci beaucoup, Jonathan. Jonathan Chiswaka, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour revenir sur ce consortium de journalistes d'investigation, il faut savoir que dans cette affaire, ils ont recueilli notamment et révélé 715 000 documents. Et alors, ils disent dans leur rapport comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de gestion auraient aidé Isabel dos Santos à cacher des avoirs aux autorités fiscales. Et ils disent, c'est le terme qu'ils utilisent, qu'elle aurait siphonné l'économie angolaise et accumulé de manière frauduleuse une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars. On a en ligne Antoine Lumbala, Antoine qui est à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Antoine, comment ça va à Lubumbashi ? Formidable. On vous écoute, Antoine.
Oui. Bon, moi, j'ai comme l'impression que si souvent lorsque les dirigeants africains sont aux affaires, ils gèrent leur pays, c'est comme s'ils géraient des boutiques familiales, comme je l'ai dit dans mon commentaire. Leurs proches, les enfants, les neveux, les nièces, pratiquent le trafic d'influence. Ils s'enrichissent en désordre. Et dès lors qu'ils quittent les affaires, parce que lorsqu'ils sont aux affaires, il est difficile que la justice vraiment puisse faire son travail. Étant donné que dans beaucoup de pays africains, la justice a toujours été inféodée au pouvoir en place, Là, vraiment du mal à travailler en titre indépendant, c'est pour lui serrer devant la justice. Le président de Tournier, c'est ainsi que le président dit des affaires, et lui et sa famille sont tous en débandade, souvent écrit qui venait de réclamer une entente en pensant qu'ils font le jeu d'une espèce de chasse sorcière. Or, en réalité, ce n'est pas vraiment une chasse sorcière, parce que le président des affaires se comportait en véritable potentat. Ils prenaient l'argent de l'État, c'est comme si c'était leur argent privé. Le pouvoir a toujours été caractérisé en Afrique par les clientélisme, le même népotisme, le népotisme, la gabegie financière. C'est vraiment le moment que notre continent est confronté. Le jour où tous ceux qui trouvent même la chance d'accéder au pouvoir, qui gèrent dans la transparence, et que les membres de leur famille, se mettent vraiment à l'écart du pouvoir, je crois que tout va bien marcher. Nous vivons dans un continent extrêmement riche. Ceux qui sont au pouvoir amassent tellement de fortunes pharaoniques et des primaires de petits peuples qui propulsent dans une guerre extrême. Je me suis toujours demandé comment expliquer ces inégalités criantes entre les peuples qui sont au pouvoir et les petits peuples. Nous sommes dans des pays riches, l'exemple de la RDC. Je crois que peut-être, avec l'avènement du nouveau pouvoir, il y a quand même des types qui le font. Évidemment, les choses vont bien marcher, mais avec les anciens régimes, c'était formidable. L'exemple du président Mobutu, Kabila qui vient de partir, c'était fantastique. Ces gens-là ont détourné, ils ont amassé de grosses sommes. Mais ce sont des équipes. L'exemple aujourd'hui de la Gétamine, avec le PC Albert Yuma, il semble bien qu'il est dans un budget, il a détourné 200 millions de dollars. D'un côté, ici, ça est vraiment la façon dont certains Congolais vivent dans les regretter. Nous avons vraiment des jugements. Nous avons touché, nous avons le diamant, l'or, le cuivre, le cachetérique, et quelque chose encore. Mais comment expliquer un pays scandaleusement riche, mais la population qui conduit dans une misère extrême? C'est la plus évidente que les dirigeants ne doivent vraiment, mais c'est sur leur pays. La plupart, dès qu'ils acceptent le pouvoir, regardent d'abord leur propre ventre, comment s'enrichir, et regardent le monde de leur famille. C'est ce qui est un peu inquiétant.
Ah, merci beaucoup. Un grand merci Antoine pour votre commentaire. On essaie de joindre Christalin Denga qui est en République démocratique du Congo, Tierno Diallo qui est en Guinée. Alors vous laissez votre numéro de téléphone hein, sur le Facebook de VO Afrique, n'hésitez pas, on fait tout ce qu'on peut pour vous joindre. Donc laissez bien votre numéro de téléphone quand vous souhaitez donc participer à l'émission. On prend Aruna Baldé qui est au Sénégal. Aruna, comment ça va? Est-ce que tout va bien à Dakar en ce moment?
Oui, parfaitement, tout va bien, tout se passe bien ici à Dakar, avec un bon climat surtout.
Alors, à vous la parole sur cette question.
Alors, par rapport à cette question, moi je pense que voilà, c'est pas surprenant du tout de ce que ont révélé les journalistes et le corps d'instruction journalistique en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, bon, les fils des chefs d'État, voilà, sont perçus comme des personnes intouchables en quelque sorte. Ils sont protégés, voilà, par le pouvoir du président. Et c'est à partir de cela que eux-mêmes ils vont abuser, voilà, la confiance, le pouvoir, la fonction qui lui ont été assignée en quelque sorte. Et permettez-moi juste de faire rebondir un peu ce qui s'était passé au Sénégal avec l'ancien le fils de l'ancien président Ablaye Wade aujourd'hui qui a été inculpé par travers à des gestions d'abégique et gestions nébuleuses en quelque sorte. Et la même chose qui se passe en Angola aujourd'hui. Parce que moi, en dehors de ça, je condamne les chefs d'État. C'est-à-dire ces pères-là qui confient à leur fils des postes de responsabilité de haut niveau en quelque sorte. On ne refuse pas que les filles travaillent pour le pays, mais que cela se fasse dans la transparence, dans la justice. Mais confier leurs filles pour des manières de dilapider les ressources publiques, des biens publics, pour leur propre compte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice angolaise doit jouer son rôle. C'est-à-dire, à partir de ces révélations-là, mener les enquêtes et appeler à Madame de Santos de justifier ses avoirs en quelque sorte. Parce que, quelque chose, Alpha, bon, c'est le bien du peuple angolais. Il y a une population qui en a besoin de cela. On a besoin de construire des écoles, des hôpitaux. Mais pourquoi cela se profite par un clan, par une famille, par une personne en quelque sorte? Je pense que, voilà, il faudra que, d'une part aussi, qu'on cesse de faire rapprocher les fils dans la fonction, dans les affaires de l'État, il faudra les écarter. Bon, mais malheureusement, cela se passe en Afrique, comme on l'a vu au Gabon tout récemment avec la nomination du fils de Ali Bongo. Mais je pense que avec la justice, cela va vraiment cesser en quelque sorte.
Grand merci Aruna pour votre commentaire. Avant de prendre Ousmane qui est en Côte d'Ivoire, le commentaire d'Emmanuel sur le Facebook de VO Afrique qui dit « Voilà un bon régime », donc il parle de l'actuel régime de l'Angola, et il dit « Malheureusement, chez nous en RDC, on ne fouine pas dans le passé ». Emmanuel qui est à Rutshuru dans le Nord Kivu. Quant à Souleymane Sy, il a écrit « Les familles des chefs d'État ne deviennent puissantes que par le marché de gré à gré dont dispose l'État. C'est à partir de là qu'elles vont se constituer une fortune, dit-il, en la fructifiant par des sociétés écrans offshore. » Donc le commentaire de Souleymane, et on prend en ligne donc Ousmane à Yamoussoukro. Ousmane, comment ça va?
Oui, ça va, c'est vous, madame?
Ça va très bien, on vous écoute.
Ça va. Oui, ça va très bien.
Extraordinaire.
Oui, justement, comme tenu de l'émission au niveau de l'Angola, parce que étant dans l'opposition, on est très pauvre. Une fois qu'on prend le pouvoir, on devient riche. Bon, ça réussit sur la population la plus pauvre, la plus démunie au monde. Il n'y a pas d'emploi, il y a le chômage. Hey, comment fait-il qu'une fille, que son papa a été président pendant combien d'années, elle ne fait que s'enrichir sur dos des Angolais. Et au retour, les Angolais gagnent quoi? Rien. Et les enfants vont commander des Angolais et les Angolais. Bon, maintenant, et qu'on dit, on prouve, chaque fois, on est devant, on a l'international pour demander des prêts, pour venir aider la population angolaise. Bon, là-bas, il n'y a pas de pauvres là-bas? Comment une seule fille peut se retrouver avec tant de milliards? Pourquoi?
Alors c'est une... Voilà. Alors merci beaucoup Ousmane. On rappelle tout de même que Isabelle dos Santos est une femme d'affaires, hein, comme tout homme d'affaires, je vais dire. Ousmane qui vient d'avoir un commentaire vraiment intéressant, un commentaire de solidarité, et ce n'est pas le seul, hein. Solidarité notamment avec la population angolaise. Pour terminer, on prend en ligne Moïse Roubenga qui est à Goma en République démocratique du Congo. Comment ça va, Moïse?
Ça va bien. Bonsoir à tous les auditeurs de VO Afrique.
Présentez votre commentaire. À vous la parole.
Voilà. Ce qui se passe en Angola, c'est un exemple. C'est un exemple à pouvoir suivre. Pour tous les régimes épris de l'esprit démocratique et de bonne gouvernance. Mais le problème est comblé que dans certains pays, surtout en Afrique francophone, on ne suit pas cela de près. Une fois au pouvoir, il y a les familles de chefs d'État, leur entourage, qui ont beaucoup de privilèges, ce qui fait qu'après les règnes, ils ont accumulé beaucoup de richesses dans leurs mains. En exemple de notre pays, d'après les enquêtes, on retrouve que la famille du président sortant, M. Kabila, a accumulé plus de 13 milliards de dollars, chose qui met un peu mal à l'aise l'économie du pays, avec un pays qui a du mal à mobiliser 10 milliards de dollars de budget. Donc on retrouve vraiment qui est beaucoup plus riche que son pays. Le comble qui est avec ça, il devient de plus en plus puissant. Cette soirée même, avec la sortie hier médiatique de M. Chadari, qui à un certain moment, lui ne veut pas qu'on puisse s'intéresser à l'affaire de détournement, d'enrichissement illicite, pour lui dit qu'on va bloquer le pays si jamais on finit dans le passé. Donc l'exemple de l'Angola, c'est un bon exemple.
Merci beaucoup Moïse. On termine sur vous, Moïse Roubenga, à partir de Goma en République démocratique du Congo. Un grand merci à toutes nos auditeurs, à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, affirmant Max Koyaweda à la production. Très bonne soirée pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. VOA Afrique.